Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse, hein, toujours en début d'année. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
On est nombreux aujourd'hui dans le studio, on est cinq, hein, cinq avec une demoiselle aussi, hein, qui est là pour accompagner Paulin qui est notre invité. Paulin, comment va ?
Eh bien, ça va très bien.
Très heureux de vous avoir, hein, depuis quelques temps, on s'était eu au téléphone. Hein.
Oui. Il y a quelques temps.
Avec papa qui est toujours d'ailleurs aquarelliste.
Et oui, c'est ça. Là, il est en atelier ce matin d'ailleurs.
Il est en atelier, il nous écoute peut-être ?
Sûrement.
Sûrement, oui, d'accord. un bon début d'année. Alors, vous êtes permaculteur. Hein.
Oui, c'est ça.
On peut définir un peu la permaculture pour... On développera tout à l'heure. Hein,
Ouais. La permaculture, en gros, c'est un mode de vie qui s'inspire principalement de la nature. Mmh. Donc, on va faire avec la nature plutôt que contre.
D'accord.
Donc, au lieu de lutter contre les insectes ou autres, on va se permettre de faire avec et de trouver des solutions pour produire autant que de l'agriculture normale.
C'est ça. Il y a combien de temps maintenant que vous êtes lancé ? Alors, vous êtes en train de vous lancer, mais au moins que vous avez envie de vous lancer ?
Alors, ça fait 4 ans que je travaille un peu sur le sujet. Et du coup, là, ça va être la grosse année où on va lancer la production.
D'accord, vous êtes installé sur Civo.
C'est ça.
Civo, c'est pas gênant la centrale non, par rapport à ça ?
Eh bien, pas du tout.
Ah, c'est vrai qu'on a des idées, hein, des fois on se dit les écolos, la centrale. Vous n'êtes pas d'ailleurs, on va tout de suite aborder le sujet, vous n'êtes pas forcément écologiste, pas plus qu'un autre en tout cas. La permaculture, c'est pas forcément de l'écologie. Hein,
c'est plus s'inspirer de ce que fait la nature et le fait qu'on puisse produire en permanence. Sans lutter contre la nature, sans la détruire forcément.
C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas d'approche politique, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on voit généralement. Hein. On a deux autres invités, hein, qui sont là avec nous. C'est nos amis du panier bio, hein, qui sont là. C'est Jacques Ringeade et Patrice Duprat.
Bonjour.
Patrice qui est président, je crois, hein, du panier bio, des biopaniers.
Des biopaniers de Moulières. Hein,
oui, de Moulières. Une association qui est fondée depuis...
Alors, ça fait une douzaine d'années, voire 13 ans qu'on existe. Uh-huh. Ouais. On a été créé par... au départ, c'était pour aider l'installation d'un maraîcher en bio, mm-hmm, sur la région. Il s'est installé à Bonn. Et puis, une autre équipe a organisé la création d'une association de consommateurs dont le but était de distribuer les paniers de légumes que le maraîcher produisait.
C'est ça, tout à fait, qui était l'association qui était sur Bonne. Je me rappelle, moi j'y étais d'ailleurs à l'époque, ouais, hein, quand j'étais sur Bonne, sur les Barbalières, je prenais un panier toutes les semaines ou tous les 15 jours, c'est toujours le même principe.
Tout à fait.
C'est quoi, c'est un abonnement annuel ou...
C'est un abonnement annuel, enfin un engagement annuel du consommateur avec le maraîcher. L'idée, c'est de prendre un panier sur toute la saison qui dure à peu près 40 semaines. Oui, 40 semaines. Voilà, il y a un panier toutes les semaines. Le panier, alors on ne choisit pas le contenu du panier, c'est il ça. Est déterminé par le maraîcher, hein, par sa production, ce qu'il produit chaque semaine, chaque mois. Et voilà.
C'était quoi ? C'était des fruits et légumes ou simplement les légumes ? Que des légumes, je crois, hein, non ?
Que des légumes, oui.
Que des légumes, donc avec du mois de janvier jusqu'à la fin de la saison, du mois d'octobre à peu près.
Bon, plutôt du mois d'avril-mai, oui, jusqu'au mois de janvier-février.
Voilà. D'accord. Voilà. En cette saison-là, on a quoi dans le panier ?
Alors en ce moment, on a des choux, des radis, genre radis noirs.
Des patates douces.
Ouais.
Il reste des pommes de terre encore.
Ouais.
Des légumes d'hiver. Ouais.
Oui,
voilà, donc les cardes.
De conservation, voilà.
Des bêtes. Quoi.
Beaucoup de choses. Combien de personnes qui servent au niveau des paniers ?
Alors là, on est à 27 paniers chaque semaine.
Oui, ce qui est pas mal. Alors, ce qui va pas suffire pour écouler la production du maraîcher, mais c'est un bon apport, je suppose.
Oui.
Actuellement, donc c'est un maraîcher donc qui est de Bertegon, donc c'est Florent et Émilie, son épouse, et donc on a changé de maraîcher donc il y a 2 ans parce que Rodolphe, qui était au départ donc a arrêté cette activité de maraîchage, et donc on a retrouvé un autre maraîcher qui est Bertegon, c'est vers Longcloître, dans le nord-est de la Vienne, Donc, ils sont donc c'est toujours la production bio parce qu'on a gardé cette particularité de chercher un producteur bio. Mmh. Voilà, parce que la difficulté dans le maraîchage, bien sûr, c'est un métier très difficile. Donc, tu le sais, Paulin, c'est quand même pas facile. Et la difficulté, c'est d'écouler aussi. Donc, s'il devait passer 3 ou 4 demi-journées par semaine à faire des marchés, c'est du temps où il ne serait pas en train de faire son travail de maraîcher. Mm-hmm. Donc, l'intérêt d'un groupe de consommateurs comme nous, bon, c'est connu aussi plus ou moins sur le nom des AMAP, hein, ça a été beaucoup d'associations qui sont créées comme ça en France, c'est de permettre à un maraîcher de ne pas avoir de trop difficulté à écouler, à distribuer.
D'accord.
Voilà. Et donc, la particularité pour nous, consommateurs, c'est au lieu d'aller dans une démarche de consommateur, je vais au supermarché, je vais au marché, je choisis mes légumes, là, c'est les légumes qui m'arrivent. C'est comme si j'avais un jardin, et ben voilà, y a les légumes qu'ils ont mûrs actuellement, c'est ceux-là.
C'est ça.
Et donc, je vais composer ma cuisine en fonction de ce qui arrive, et non pas, je vais, en fonction de ce que je veux faire comme cuisine, aller chercher les légumes que je veux. Et c'est vrai, c'est une autre démarche de consommateur.
Une démarche, je commence à connaître Paulin qui se lance dans la permaculture. C'est la même démarche, justement, la permaculture et le panier bio. Il y a une complémentarité, on va dire.
C'est quasiment pareil. C'est juste que je vais pas avoir le label bio à proprement dit, mais oui, en fait, c'est le même principe. Du coup, nous, on s'adapte et on consomme ce qui est productible actuellement en fonction des saisons.
Et le but, c'est d'aller le vendre au final sur les marchés.
Sur les marchés, moi j'aurais ma boutique sur mon propre terrain.
D'accord.
Et du coup que j'inaugurerai vers avril. Mm-hmm. Et puis du coup après, bah oui, si faire des marchés, aussi fournir quelques restaurants.
D'accord.
J'ai déjà quelques
contacts.
Et du coup, donc en fonction de ma production, j'adapterai si besoin de faire des marchés pour écouler les stocks ou autre.
C'est ça, donc pas mal de choses. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'installaient d'ailleurs, hein, comme toi, aujourd'hui sur le Chauvinois. Une dame notamment, alors j'ai plus son prénom, je l'ai vu ce matin sur Internet. On voit qu'il y a une démarche de ce côté-là qui commence à être intéressante. Les gens vont de plus en plus, hein, vers la démarche du local.
Ouais.
Il y a une époque au moment du Covid, on s'est dit le local, ça va aller. Il a semblé qu'il y ait eu un creux par la suite, mais là on voit que les gens s'intéressent quand même.
Bah ça, il y a une prise de conscience, oui. Sûrement dû au Covid aussi, avec le confinement ou autre.
Sûrement.
Les gens ont pris conscience que faire un jardin, c'est quand même peut-être un petit peu sympa.
Ouais, c'est sympa. C'est compliqué. Hein. Moi, je sais que c'est mon épouse qui le fait, jardin. J'y vais très peu pour moi.
Ouais.
Pour ma part, c'est assez compliqué. Il faut vraiment aimer ça, quoi.
Ouais, après, oui, c'est vrai que ça peut être un peu comme la cuisine, ou ça peut être des moments assez agréables à passer.
C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens comme les paniers bio qui sont là, d'ailleurs,
ouais,
pour faire ce que, pour me remplacer, pour faire un peu ce que je ne fais pas. C'est-à-dire pour fournir les fruits et légumes à la famille, quoi. Mm. Vous pourriez peut-être un jour, peut-être, travailler ensemble, pourquoi pas, on ne sait jamais.
Pourquoi pas.
La production, Paulin, c'est quoi? C'est tourné sur quoi? Sur du légume, du fruit, des herbes, enfin,
C'est que moi, ça va être assez vaste, parce que du coup, c'est un projet d'autonomie quasi complète.
Ouais.
Donc, en fait, tout ce qui va être aromatique, plantes médicinales, je pourrais pas, parce que du coup, d'un point de vue normes et autres, c'est assez compliqué. Mais je vais produire tout ce qui va être aromatique, légumes, fruits, parce que j'ai déjà un verger qui est bien implanté sur le terrain.
Uh-huh.
Donc il y a quelque chose à faire. Et là, je vais commencer avec 3 500 m² sur le terrain de culture, avec beaucoup de légumes anciens. Et résilient à tout ce qui est maladie, mildiou et autres. Et du coup, ça veut dire que j'ai eu aucune maladie l'année dernière, malgré toute l'eau qu'on a eue.
Oui.
Donc tous mes pieds de tomates, j'en ai perdu quelques-uns parce que du coup, il y a eu un surplus d'eau à un moment qui a duré 2 jours. Mais voilà, mais tout le reste, du coup, j'ai réussi à reproduire. À produire assez de graines pour pouvoir en vendre et en produire cette année.
D'accord, bah ça permettra de détailler justement tout à l'heure toute cette production. Tiens, je vais en profiter, pendant que j'y pense, j'ai oublié. On est aujourd'hui le 11 janvier, hein, c'est pas tout à fait un hasard, lorsqu'on a discuté du jour de l'intervention. C'est parce qu'aujourd'hui, le 11 janvier, on est la Saint-Paulin, tout simplement. Hein. J'avais proposé deux dates et c'est celle qui... Donc un bon début d'année, une bonne fête en tout cas, Paulin.
Eh ben merci.
Pour ce qui concerne le Pernier Bio, donc on a dit combien d'années, 25 ans, non?
Non, 12 ans, ah, ou 13 ans.
Vous étiez deux, j'avais doublé le chiffre rapport à vous deux. 12 ans, mais déjà énormément de paniers de fournis.
Ouais.
Je me pose une question, vous êtes simplement sur Bonne au niveau de la distribution ou...
Alors oui, au début on était avec Rodolphe, le maraîcher qui était installé sur Bonne. Il y avait une distribution sur Bonne et une sur Saint-Julien-Lard.
D'accord.
Et là on est monté par semaine, on était à environ 70 paniers.
C'est énorme.
Hein, plus il avait un peu quelques autres débouchés... cantine, la ferme de Belfond, etc., la Biocoop, voilà, quelques magasins. Et après, donc, il a eu, on va dire, quelques difficultés financières où il s'est séparé de sa salariée, donc il s'est retrouvé tout seul. Donc, c'était compliqué de produire 70 paniers par semaine. Donc, il a arrêté sur Saint-Julien-l'Art. Et là, on continue avec donc les jardins de Bertegon, mais uniquement sur Bonne.
D'accord. Et là, c'est vous qui gérez. C'est pas comme à l'époque. C'était Rodolphe qui venait, je crois, directement, qui vendait. Là, c'est aussi qui viennent ou
Il vient apporter ses légumes, ouais. D'accord. Ouais. Ils sont alors soit c'est prêt, c'est préparé. Il y a des bottes de légumes. Soit il faut peser le légume qui est terminé, mais le panier est déterminé par le producteur et il nous liste en fait ce qu'il y a dans le panier. Et chaque adhérent remplit sa besace.
Oui, c'est ça. Si j'ai mon souvenir, on avait une ardoise en arrivant. Tout à fait. Il y avait marqué tout ce qu'on pouvait mettre dans le panier. Et on choisissait nos produits par rapport à ça.
Ça n'a pas changé de ce côté-là.
Avec deux tarifs de panier, peut-être, non, c'était ça à l'époque.
C'est ça. Donc, il y a un petit panier à 12 euros et un grand à 18.
Avec toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de
Actuellement, c'est tous les 15 jours, oui, pour la reprise. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, d'ailleurs, à vouloir adhérer à l'association? Enfin, vous lancer dans le projet de ces paniers, parce que c'est vrai que nous, on l'a fait pendant un certain temps. Alors, je vais être pas méchant, mais entre guillemets, c'est de dire que j'ai déménagé ensuite et forcément, je m'y suis moins intéressé. Vous, c'est la proximité, mais il y a peut-être aussi une autre motivation.
Personnellement, moi, c'est le bio, c'est quelque chose que je pense qu'il faut défendre, dans le sens où le but, c'est de montrer que c'est possible de produire autrement. Et même si, évidemment, ça ne peut pas être possible d'un seul coup, en 10 ans, de changer toute la production en bio, c'est vrai, il faut être réaliste, mais c'est aussi de montrer que si on veut manger sainement, si on veut que nos familles et puis les jeunes familles, que ça soit aussi, ça a été une surprise. Beaucoup de jeunes familles se sont inscrites dès le début dans cette association. On croyait que ce serait des bobos plutôt âgés, choses comme ça. Et on a été heureux de voir ça, que des gens étaient intéressés par avoir une alimentation de qualité et saine. Voilà, il y a eu ça qui nous a... C'était heureux et franchement, c'était... C'était le but pour moi, c'était ça, c'est de montrer que on peut manger sainement. Voilà, c'était
ça. C'est et puis la proximité, parce que c'est vrai qu'on parle du bio. Alors moi, ce qui me soucie souvent, c'est de parler du bio argentin, brésilien ou ukrainien ou polonais. Me dire que le maraîcher français qui lui fait du bio ici, j'ai plus confiance que dans les autres. On n'a pas les mêmes normes. Hein.
Ouais. Alors il y a la norme bio qui a eu un grand changement il y a quelques années entre la norme bio qui était française et puis il y a eu la norme bio européenne. Alors il peut y avoir des différences, mais c'est quand même un cahier des charges qui est assez exigeant. Et c'est pour ça que c'est important de soutenir cette agriculture là dans le sens où il y a quand même des grandes difficultés, même pour les conventionnels, ceux qui ne sont pas bio, il y a des grandes difficultés, et c'était de pouvoir les aider. Et en plus, le plaisir, c'est que les légumes sont bons. On ne se fait pas du mal en mangeant des trucs, parce que l'idée, c'est qu'on va manger bio, bon, il y aura des trucs un peu pourris, choses comme ça, mais non, ce n'est pas du tout le cas. On a des carottes, on peut les garder 15 jours, elles ne vont pas être à moitié pourries au bout de 3 jours dans le frigo, comme des fois ça peut arriver, des carottes qui ont été forcées. Quoi.
Mais c'est vrai qu'on a un peu moins confiance, moi, les carottes bio que je prends au supermarché, par exemple, je me dis que ce n'est pas forcément le même bio que celui que je vais aller chercher chez vous.
Le label est quand même là, c'est-à-dire qu'il y a des exigences. Il y a quelqu'un qui va vendre du bio alors que ça n'en est pas, il va avoir des gros problèmes. Donc, quand il y a bio, logiquement, il y a un label qui est vérifié et on ne peut pas jouer avec ça.
Le bio est plus cher, ce qui fait justement que vous passez les intermédiaires en fait en faisant vos paniers, c'est une bonne chose.
Alors, pour poursuivre sur le côté le bio qui vient d'Argentine ou je ne sais où, c'est vrai que moi, je me suis intéressé au bio et aussi au local. Parce que je me dis que c'est quand même plus facile et plus intéressant de manger des légumes qui sont produits à côté de chez moi que d'aller les chercher à l'autre bout de la planète. Et puis, dans la notion de bio, pour moi, il y a la notion de développement durable, en fait, hein, de protéger, protéger la nature. Le bio, c'est quasiment sans intrants externes. Enfin, voilà, donc, on protège on protège la planète. Donc c'est vrai qu'aller chercher des haricots verts qu'on poussait au Cameroun ou je ne sais quoi d'autre, c'est un peu gênant.
Donc, c'est ça, tout à fait. Donc d'où l'intérêt d'avoir des gens comme Paulin qui font de la permaculture,
voilà,
du local.
Et concernant le prix, oui, le bio, de manière générale, est sans doute plus cher, notamment pour les produits transformés. Mais si on analyse bien, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, c'est que les grandes surfaces, par exemple, sur les produits, sur les légumes, par exemple, qui ne sont pas transformés, se font une marge beaucoup plus importante que sur les autres produits. Donc, pourquoi c'est plus cher? C'est aussi parce que certains en profitent.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et
oui,
le fait, pour nous, de vendre directement, mais vraiment directement, je veux dire, le mardi soir, chez nous, le panier qui est rempli par l'adhérent, c'est les légumes qui ont été arrachés le matin à 40 km de Bonne.
C'est ça, sans intermédiaire.
Sans intermédiaire, voilà.
C'est une cotisation annuelle, je suppose, ou par rapport au panier qui est intégré peut-être dans le prix du panier, mais c'est très peu, quoi.
Il y a une adhésion à l'association, parce qu'on a quelques frais de fonctionnement, oui, voilà, mais sinon c'est uniquement le prix du panier qui revient entièrement au maraîcher.
Bah écoutez, je vous remercie. On va peut-être appeler le numéro de téléphone, tiens, ou un site, ou un groupe Facebook.
Donc le groupe Facebook, c'est les biopaniers de Moulières.
Voilà, exactement.
On peut l'avoir. On a plus de site, mais voilà, c'est le groupe Facebook. Et puis ton numéro.
Mon numéro de téléphone, peut-être,
ouais. Oui,
le 06. 17 89 55 80.
D'accord, et puis on mettra toutes les coordonnées sur Rando 86 à la fin de cette émission pour un peu vous passer le relais, en fait. Je vous remercie d'être venu. Ce qui serait intéressant, j'y pensais tout à l'heure, c'est qu'on a une émission qui s'appelle Court-Circuit, qui va sur les marchés, qui va voir les producteurs. C'est peut-être intéressant, un jour, qu'ils viennent justement vous voir. Je lance l'appel à Pascal, à Gilles, et puis à Émilie, hein, qui font cette émission, qui viennent vous voir directement sur le parvis. Vous êtes sur le parvis de Bonne, toujours ?
C'est ça.
À l'ancienne poste, la salle des fêtes.
Exactement.
Voilà, donc ils viennent vous voir.
La saison va bientôt se terminer, mais...
Oui, voilà, ouais, au moins début de saison prochaine, pour lancer la nouvelle année.
Ah ouais, très bonne idée.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie.
Beaucoup. Merci.
On va se quitter, on parle de permaculture. Alors, moi, j'ai l'impression de permaculture et bio, j'ai l'impression que c'est un débat qu'on entend depuis 40, 50 ans. Maintenant, j'ai l'impression qu'on revient à l'agriculture alors, pour nous, messieurs, nos grands-parents, pour Paulin et son ami, c'est leur arrière-grands-parents, on a l'impression de revenir. Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, on a l'impression de passer pour des vieux cons, ça tombe bien, puisque je vais vous faire goûter vieux cons, c'est Anthony Joubert qui nous chante ça. On se retrouve tout de suite après avec Paulin.
Des chaussures Buffalo, un bomber sans blouson, une calculette Casio sur la gueule des boutons. J'appelais mon père papa, j'appelais ma mère maman. Maintenant c'est pape, c'est mamsou, alors c'est daron. On parlait normalement, pas comme des teubés. Maintenant si tu dis quoi, on te dit quoi, coubé. Dorothée et Jackie Chaud, ça volait pas bien haut. Mais c'était mieux que les télé-réalités. Un plombier et son frère, une princesse à sauver. Maintenant c'est des dealers qui doivent s'entretuer. Un téléphone Nokia d'avant l'obsolescence. Tu le tombais sur ton doigt, tu partais aux urgences. La la, la 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 la. Heures pour surfer, putain comme ça ramait. Et puis quand ça marchait, ton père voulait téléphoner. Au mur des posters Waddle Papin ou To Be Free, celui de Clara Morgan bien planqué sous le lit. On avait des amis, des vrais qu'on connaissait. Ils avaient des prénoms et pas des pseudos à la con. On allait dans les booms, on se roulait des galoches. Avec la langue qui tourne, moi j'avais la plus moche. On n'avait pas Tinder, et c'est près du flipper qu'on rencontrait les filles de face et de profil. On n'avait pas Netflix, même pas Disney Channel. Et pour les films X, y'avait pas Jackie Michel. La la, la 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 la. Mais tout ce que je dis, c'est les discours d'un vieux con. Où c'est que ça a merdé? Quel jour ça a changé? Mais quel est ce matin où je n'étais plus gamin? Marseille avait la coupe, Zidane un dégradé. Et Madame Mbappé attendait un bébé. On était plus serein, le gasoil le moins cher. On pouvait faire un plein sans se prendre un découvert. Y'a un truc c'est bizarre, c'est là que ça a merdé. On a mis un mouchoir sur toutes nos libertés. Il y avait des orchestres, on sautait dans nos bras. Et on faisait la fête sur les lacs du Connemara. On était des malades, on savait s'amuser. On pouvait faire des blagues sans se prendre de procès. C'était pas mieux avant, ce sera pas mieux après. Mais je dis simplement mon enfant, je l'aimais. Où c'est que ça a merdé? Pardon papa, maman. Je vous parle au passé, je vous aime au présent. Où c'est que ça a merdé? C'est une chanson de con, mais tu vas la chanter dans 20 ans.
Et voilà, c'était donc vieux con, hein, je ne sais pas à qui c'était adressé, j'espère pas à moi. Nous sommes avec Paulin ici en studio pour parler de permaculture. On parlait, Paulin, de fête aussi, hein, puisque le 11 janvier, on le rappelle, c'est aujourd'hui la Saint-Paulin. Donc tu te lances, on va se tutoyer, ce sera le plus simple, dans la permaculture depuis maintenant quelques mois. Le projet va être inauguré début avril.
Ouais, j'aimerais bien, ouais, courant avril. Je n'ai pas encore de date précise, parce qu'il faut encore que je prépare le terrain. Mais ouais, principalement, ouais. Courant avril, ce serait pas mal.
Alors c'est un vaste projet, hein. Il y a de la permaculture, mais pas que, il y a aussi du participatif au niveau des bâtiments, je crois. Hein.
C'est ça, en fait, c'est un projet de micro-ferme où on a pour but de se rendre quasiment à 100% autonome. Bon, c'est pas possible à 100%, mais on va essayer de se rendre autonome en électricité, en eau, en tout ce qui va être bioclimatique pour le chauffage, donc on va adapter la maison de façon à ce qu'elle s'adapte au fonctionnement de la nature. Donc en été, on va essayer de faire en sorte que la chaleur ne rentre pas dans le bâti. Mmh. Et l'hiver, on va essayer de conserver un maximum cette chaleur pour éviter de chauffer pour rien, quoi.
Parce d'accord.
Que, du coup, là, on pourrait chauffer maximum un mois dans l'année, quoi.
D'accord. À la rigueur, je me disais que pour chauffer, il y a les réacteurs qui ne sont pas très loin de...
Oui,
ça
peut être pratique. Un peu d'uranium, ça peut être sympa.
Voilà. Pourquoi. Comment est venue justement l'idée de ce projet? Parce que la permaculture, on peut être sensibilisé quand on est enfant, quand on est fils d'artiste, hein, on peut le comprendre. Mais comment est venu le projet en lui-même? Parce qu'il faut se lancer à un moment ou à un autre.
Eh bien, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, du coup, j'ai toujours été très, très proche de la nature, de par mon éducation. Et en fait, j'ai toujours eu un petit plus pour tout ce qui va être survivalisme ou autre. Uh-huh. Et en fait, de par ça, je me suis dit, on peut très bien l'adapter à notre habitation et à notre mode de vie sans que ça impacte notre entourage ou autre. Et en plus de ça, ça permet d'un point de vue économique, donc ça permet de réduire les factures, ça permet de produire et du coup de consommer plus sain, parce que du coup c'est nos produits, donc on sait d'où ils viennent. Mmh. et c'est assez important, et après c'est que c'est très, je trouve ça très intéressant d'apprendre un maximum de choses.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors je vois que c'est familial, puisque c'est ta sœur, je crois aussi, qui le fait,
oui,
qui est lancée dedans.
Ça.
Le projet est peut-être plus développé maintenant, pas encore, non, c'est...
Elle a un peu plus avancé que moi au niveau de son terrain, de sa préparation de son terrain. Mais ouais, c'est pareil, elle s'est lancée cette année-là.
Elle, c'est du côté de Bonneuil-Matour, ou...
C'est ça.
D'accord.
C'est
ça. Donc c'est toute la famille. Ça vient de qui? Papa, maman, un des deux, les deux?
Ma sœur a toujours voulu faire ça.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai toujours été proche de la nature aussi, donc ça m'a conforté aussi dans l'idée que voilà, si je suis pas tout seul, c'est toujours bon.
C'est ça, exactement.
Et oui, puis on a toujours eu le soutien de nos parents là-dessus.
Et une formation jamais... peut-être à l'origine au...
Alors,
niveau du...
Oui, ma sœur, du coup, elle a eu un bac pro,
ouais.
Horticole. Et du coup, moi, j'ai fait tout en autodidacte. Donc,
d'accord.
Tout en apprentissage sur des vidéos YouTube. Sur des bouquins, j'ai énormément de livres qui en parlent. Mmh. Et puis à parler avec les anciens pour apprendre un maximum de choses.
D'accord. Et une activité à côté pour l'instant? Parce que quand on se lance dans un projet, il faut quand même arriver à survivre quelque part, à vivre en tout cas.
Ouais, c'est ça. Bah alors pour le moment non. Voilà, mm-hmm. je vais reprendre un petit peu histoire de d'avoir quelques fonds supplémentaires, mais sinon non, principalement vu qu'on avait la rénovation de la maison avant. Bah, du coup, moi, je me suis mis à plein temps dessus.
Ouais. Non, j'en parle parce que j'ai vu sur Internet que tu étais intéressé par la monnaie.
La crypto-monnaie.
La
oui.
crypto-monnaie. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est un moyen d'avoir des fonds, tout simplement.
Non, bah, oui, ça permet d'avoir de sacrées rentrées d'argent. Mm-hmm. Et en plus, c'est une fois qu'on est dedans et qu'on a pris le temps d'apprendre le domaine, le lexique et autres, ça reste relativement simple. Moi, il y a beaucoup de gens qui perdent parce que du coup, ils investissent sans savoir. Mm-hmm. C'est là où c'est toujours très dangereux, mais c'est comme tout domaine d'investissement. Parce qu'au final, c'est comme une bourse, mais en plus rentable.
D'accord. Ouais.
Donc, alors, une fois qu'on...
C'est un sujet qu'on abordera peut-être dans quelques temps, là, puisque j'avais invité il y a quelques temps une ancienne députée européenne, Elisabeth Morin-Chartier, à venir nous rejoindre. Et puis peut-être que le jour où elle reviendra, je te prendrai peut-être au téléphone ouais. hein, pour nous parler un peu de la crypto-monnaie. On va revenir sur la permaculture, sur ton projet. Tu me disais combien d'hectares, combien de mètres carrés plutôt on est oui,
là, on a pile un hectare.
Pile un hectare ouais, de...
C'est ça.
Donc sur Civaux même ou
C'est ça, bah, c'est un peu excentré, mais c'est dans la commune de Civaux.
D'accord.
Et du coup, c'est à côté de la tour au Conium.
D'accord, oui, tout à fait. Ouais.
Ouais, et du coup, c'est entre la cascade et la tour au Conium. Enfin,
l'ancien restaurant, où il existe toujours déjà
Toujours, oui. Maintenant, d'accord. C'est un bar à tapas.
Ah d'accord, ok. Ouais. Donc ouais, un beau secteur. Donc c'est un terrain en location, non? C'est un terrain que tu as investi pour t'installer durablement, on va dire.
C'est ça.
Voilà. Et à ce niveau-là, donc beaucoup de concurrence dans le coin, je ne sais pas. À part ce projet-là dont je parlais tout à l'heure qui va se faire sur Pouziou, avec cette dame qui ouvre, sinon il n'y a pas de...
Sinon très peu.
Très peu.
Parce que du coup j'avais fait ma veille concurrentielle et en fait il y a très peu de...
Voilà, et des contacts donc, avec les restaurants, parce que c'est vrai que c'est un bon moyen. Et puis et les marchés peut-être à un moment ou un autre.
Bah les marchés, oui, si j'ai une trop grosse production, oui, pourquoi pas.
Alors l'idée, c'est au niveau de la production, c'est de produire quoi exactement?
Eh ben principalement des légumes anciens, parce que les variétés anciennes sont toujours bien plus résistantes que les nouvelles, et elles sont beaucoup moins trafiquées. Donc d'un point de vue nutritif, c'est incomparable. Parce qu'une tomate aujourd'hui cultivée en serre, en hors-sol, on va être sur une tomate où c'est quasiment que de l'eau.
Ouais,
et au niveau du goût, donc gustativement parlant, c'est vraiment pas incroyable. Alors qu'une tomate de variété ancienne, les variétés anciennes de cœur de bœuf par exemple, c'est juste... délicieux et même nutritivement parlant c'est hyper avantageux et du coup c'est que des variétés anciennes qui sont en plus adaptées à nos climats parce que chaque département a un climat spécifique et une terre spécifique et en fait ces variétés sont adaptées localement et du coup ça permet de mettre en fait l'arrosage au lieu d'être à un arrosage tous les jours on va être sur un arrosage maximum à la semaine.
D'accord.
Sur les grandes canicules. Et sinon, ça va être au mois. Donc, très peu d'entretien.
D'accord.
Quasiment aucune maladie, parce que tout ce qui est mildiou, c'est pas impacté du tout. Et ce qui est plutôt rare, rien que pour des tomates.
Ouais.
Et du coup, surtout là, avec les années pluvieuses qu'on a eues.
Exactement.
Donc, ça va être que du ancien et que du perpétuel. Parce que du coup, il y a beaucoup de légumes perpétuels.
Ouais.
Au lieu d'avoir des oignons, des gros oignons, il y a de l'oignon rocambole qui pousse, qui repousse chaque année. Et ça fait des sortes de petits bulbes. Et en fait, avec un oignon comme ça, qui est tout petit, c'est plus petit qu'une pièce de 10 centimes.
D'accord.
Et en fait, ça permet d'avoir le rendu gustatif d'un demi-oignon jaune.
D'accord.
Ce qui est assez conséquent. Et en fait, chaque plante, il y a du poireau perpétuel, il y a de l'ail perpétuel, enfin c'est de l'ail rocambole, et il y a plein de légumes qui sont comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a encore moins d'entretien, parce qu'on n'a pas à les replanter chaque année, donc pas de semis, pas de repiquage, rien. Et ça fait gagner énormément de temps, et ça permet du coup de produire plus, sans avoir à impacter le sol ou le...
D'accord. Des choses qu'on a oubliées, c'est vrai qu'on parlait des graines. Aujourd'hui, je suppose que tout ce qui est tomates et autres, c'est toi qui fais tes propres graines. On a plutôt l'habitude, nous, d'aller les acheter au supermarché ou chez Gamme Vert ou autre. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que, une saison, c'est mort. Après, on peut plus réutiliser quoi que ce soit quand on le fait nous-mêmes, quoi, en fait. En utilisant des légumes anciens, c'est peut-être plus facile de pouvoir d'une année à l'autre.
En fait, c'est ça. Il y a l'hybride, donc l'hybride F1. Donc, c'est toutes les graines qu'on achète en supermarché. Après, c'est noté sur les paquets, mais tout ce qui va être hybride F1, ça va être des non reproductibles. Donc en fait, ça peut reproduire l'année d'après, mais le problème, c'est que du coup, les fruits vont dégénérer et ça va vraiment pas être bon. Alors que là, les variétés anciennes, l'avantage, c'est qu'on peut reproduire en illimité sans problème. Et après, du coup, c'est le taux de germination. Donc si par exemple, on a une graine, au bout de 5 ans, son taux de germination va être moins grand que la première année.
D'accord.
Mais sinon, le reste du temps, elles sont toujours reproductibles et du coup, on sélectionne les meilleurs pieds pour récupérer les meilleures tomates et les meilleures graines de ces tomates-là, pour avoir l'année d'après des pieds encore plus performants qui sont adaptés de plus en plus au terrain.
D'accord. On revient véritablement à ce qu'on avait, ce que je disais tout à l'heure, hein, avant-guerre, avec ces gens qui, alors même si ça a évolué, hein, maintenant il y a la recherche, je pense qu'il n'y a pas simplement le fait de planter, on cherche à s'améliorer, mais on revient un peu à une culture ancienne qui n'est pas forcément rentable, hein, c'est ce qu'on disait par rapport au prix en supermarché. À ce niveau-là, justement, tu comptes faire comment pour arriver à être rentable? Ça, c'est, je sais pas, mais en tout cas, à vendre par rapport à la concurrence.
Eh ben, en vrai, c'est très contradictoire parce que en fait, la façon de la base de la permaculture, c'est vraiment de travailler sans effort et avec la nature. Et du coup, par ce fait-là, par ce biais-là, je peux avoir une rentabilité bien plus élevée qu'un maraîcher qui va, on va dire, cultiver en conventionnel. Mmh. Et en fait, la permaculture apporte, en fait, la première année, par exemple, je vais planter un poireau qui va, lui, se multiplier. Donc, l'année d'après, j'en aurai 5. Mmh. Et en fait, si on ne les récolte pas, tout ce qui va être perpétuel, et ben en fait, chaque année, ça va se multiplier. Donc, au bout de 2 ans, on va avoir, au lieu d'avoir même les fraisiers, au lieu d'avoir 2 pieds de fraisier, et ben ils se marcottent.
D'accord. Coup,
ça en fait 15, 20 l'année d'après, 60 l'année d'après. Et puis après, c'est exponentiel.
D'accord.
Donc c'est l'avantage de la nature, c'est que tout se multiplie très facilement.
Au niveau des maladies, on en parlait justement, parce que tout se multiplie, oui, mais il faut empêcher les maladies. On n'utilise aucun produit chimique?
Non.
Des insectes peut-être, uniquement des choses comme ça?
Et ben en fait oui, par exemple si on a trop de pucerons, ouais, on va faire énormément de refuges pour tout ce qui va être coccinelle, ou il y a plein d'insectes du coup qui sont contre en fait il y a chaque problème a une solution dans la permaculture, et c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a jamais besoin d'autres choses que ce que la nature de base nous apporte. Donc après c'est à nous d'amener la biodiversité qu'il faut sur le terrain, mmh, pour nous permettre de lutter contre ça.
D'accord. Ça peut être évident de travailler tous les jours seul, non? C'est sur son terrain. Je dis ça parce que j'ai été indépendant moi dans un autre domaine à une époque, et c'est vrai que se motiver quand on est seul, c'est pas évident. Alors ta sœur le fait, c'est très bien, mais ça va être assez compliqué d'être motivé tous les jours, surtout quand on va à l'ampleur du travail, il y a quand même pas mal de choses à prévoir.
Bah c'est ça. Après ce qui est avantageux, c'est que nous on a eu l'avantage d'avoir la rénovation de la maison. Ouais. Et au final, c'était le plus dur. Et du coup, on s'est dit, ça s'est passé. Bah maintenant, du coup, on a fait le plus dur, donc pourquoi ce serait compliqué? Donc ça va, la motivation est toujours là.
D'accord, et puis le regard des gens, parce que c'est vrai qu'on en parle peu, mais le regard des gens, c'est un peu... Alors, je sais pas, on parle souvent d'écologie, on parle de bobos, de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une sorte de mépris, on va dire, dans le regard des gens. C'est un peu le cas aussi en permaculture. Il faut expliquer en permanence pour arriver à...
Il faut toujours prouver, mais ça c'est un problème sociétaire. Mais il faut toujours la preuve de quelque chose, mais après, c'est pas très très grave, parce que... l'avis des autres, on fait notre bout de chemin et puis on verra quoi.
Exactement, tout à fait.
Mais on avance doucement et puis voilà. Et puis
donc,
voilà,
avec une inauguration, donc on l'a dit, au mois d'avril.
C'est ça, si possible.
Bon, bah, écoute,
on va tout faire pour.
Voilà, on va se faire une petite pause musicale. On va écouter Camaro, tiens, qui il y a quelques années nous chantait Femme Like You, et puis on revient tout de suite après.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Hey. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you.
Quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un son à ma vie, et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où j'suis parti. Te ramène à la soirée du bar quand on est sorti.
sommes toujours sur REC 103.7, hein, en compagnie de Paulin Pacro, hein, qui s'installe en permaculture. Et j'ai au téléphone Alice Bioche. Alice, bonjour, vous m'entendez?
Bonjour, oui, très bien.
Bon, vous êtes du côté de Pindré, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Exactement. Et vous êtes donc, comment on dit, exploitante au niveau des grandes oreilles, hein, une entreprise qui s'occupe des ânes, si j'ai bien compris.
C'est ça. En fait, son nom se dit paysan, tout simplement.
D'accord.
Parce qu'on a un élevage d'ânes. Et puis, on récolte le lait des ânesses pour transformer l'intégralité de ce qu'on récolte en cosmétique directement sur la ferme.
Depuis combien d'années maintenant ?
Depuis 2016, donc là on est dans la 9e année.
Ah oui, quand même, c'est une belle activité. Vous êtes deux sur l'exploitation avec votre époux Nicolas, je crois.
C'est ça, c'est ça.
Et deux ânesses, d'autres animaux ou d'autres activités en plus? Parce que c'est vrai que c'est toujours étonnant de se dire qu'on arrive à occuper deux emplois sur avec deux ânesses. Alors il n'y a rien de méchant dans mon propos, c'est simplement que j'essaie de comprendre.
Oui, non, je comprends bien. En fait, on a deux ânesses en lactation dans l'année,
ouais.
Mais dans le troupeau, on a 14 animaux.
Ah oui, voilà, ouais, d'accord.
En fait, ce qui nous permet de faire des rotations, comme ça chaque ânesse ne va avoir un petit que tous les 3 ans au maximum.
D'accord.
Et puis après, bah, c'est pour leur permettre d'avoir aussi des... j'allais dire une vie de troupeau comme ils le méritent, avec différents âges, parce que dans les 14 animaux on va du bébé au retraité.
Mmh.
Mais le fait de tout transformer sur place et de tout vendre en vente directe, ça prend énormément de temps.
Je veux bien le croire. Vous faites les marchés, vous avez une boutique?
Les deux. Alors on va faire les marchés. Alors la plupart du temps, nous, ça va être des marchés artisanaux.
Oui, tout à fait.
Ça va être du salon bien-être, les marchés de Noël, des fêtes de plants, tout ce genre de choses. Et on a aussi une boutique à la ferme et un site internet.
Ça me rappelle qu'on a un salon de bien-être qui est prochainement à Chauvigny. Vous y serez ou
Je l'espère. On a envoyé le dossier.
D'accord. C'est en janvier ou février, non, il me semble.
Là, celui pour lequel on a envoyé le dossier sera au mois d'avril, si je
ne me trompe pas. Ah, j'étais un peu rapide dans mon propos. On essaiera d'en reparler à ce moment-là. Au niveau des produits, donc je parlais de savon tout à l'heure, mais c'était pour résumer un peu. Vous faites quel genre de produits par rapport à l'activité?
En ce moment, la gamme compte une trentaine de produits. Elle va s'élargir bientôt sous peu. Donc on va avoir du savon, on va avoir du shampoing, du dentifrice et du savon de rasage, tout ça en version solide. Après, sous une texture de baume, on va avoir des baumes à lèvres, des baumes pour le corps, le visage, un pour les cheveux et aussi un déodorant. Et après, sous une forme de crème, là, on a du lait pour le corps et des crèmes visage.
D'accord. Au niveau de l'entreprise, enfin de la société en tout cas, vous faites une ferme permaculturelle, hein, j'ai vu ça sur Internet. Qu'est-ce qui vous a amené à la permaculture, justement? C'est le thème de notre émission aujourd'hui avec Paulin.
En fait, tout simplement, je dirais la logique. Parce qu'au final, chaque élément de la ferme n'a pas qu'une utilité, c'est vraiment un ensemble. Je vois par exemple, si on prend j'aime bien prendre l'exemple de la mare au départ, parce que beaucoup de personnes n'avaient pas compris pourquoi on avait, entre guillemets, enlevé des mètres carrés de prés pour les ânes pour en faire une mare, tout simplement parce que ça a fait revenir par exemple d'autres animaux. Que ça allait être des animaux de l'eau ou des oiseaux qui eux-mêmes allaient après amener d'autres espèces végétales dans les pâtures, ce qui allait améliorer l'alimentation des ânes, leur santé de ce fait-là après. Et en fait, on se dit tout est lié, tout est logique. Tout le crottin va aller servir aux poules qui, elles, vont manger les vers ou les... et qui vont en même temps nous le gratter, nous l'aérer, etc. Ce crottin, après, va pouvoir nous resservir pour faire des semis de plantes, que ce soit pour notre potager à nous, ou pour les plantes médicinales qu'on fait pousser pour nos ânes après.
Tout est vraiment lié.
Et en fait, on se dit juste, s'il y a quelque chose dans notre ferme dont on ne sait rien, c'est qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'il est possible d'en faire.
D'accord, oui, c'est un peu le principe de la permaculture en général, que ce soit avec les animaux, que ce soit en maraîcher, comme le fait Paulin.
C'est ça.
Voilà, vous avez un site internet, hein, je crois.
Hein. Oui, c'est aux grandes oreilles tout attaché. .fr.
D'accord, on vous voit aussi sur Facebook, hein, puisque vous avez une page sur Facebook. Un numéro de téléphone, peut-être ?
Oui, c'est le 06 99 85 50 03.
D'accord, et bien, écoutez, je vous remercie d'être intervenu. Et puis je vous dis peut-être à bientôt, on essaiera. Je vais vous dire la même chose que tout à l'heure que pour le panier bio, hein, dont une émission pourrait aller se tourner sur place, un court-circuit que nous faisons maintenant sur REC, une émission qui est de proximité par rapport aux producteurs. Je vais leur laisser vos coordonnées, et puis peut-être viendront-ils vous voir assez rapidement.
Voilà. Et ben avec grand plaisir.
Et ben écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Merci vous aussi, au revoir. Voilà, nous étions donc avec nos amis des Grandes Oreilles, qui se situent à Pindré, donc du côté de Montmorillon. Tiens, ça me permet, en parlant de Montmorillon, j'ai un livre devant moi, ça s'appelle « Meurtre en Montmorillonnais hein, », ce qui nous permettrait, si ça vous intéresse, tiens, je vous lance le défi, vous m'envoyez un petit SMS au 06 72 347 347, et si ça vous intéresse de le lire, je vous donne le livre, vous me le lisez, vous venez le résumer à l'antenne la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà pour ce qu'il en est. On a donc Paulin qui est avec moi ici en studio pour parler de la permaculture. Donc combien d'années maintenant de quelques mois d'expérience, on va dire, en réel, mais combien d'années d'envie, on va dire à...
Ouais, bah il y a eu un an et demi d'expérimentation et d'envie, on est sur 4, bientôt 5 ans.
D'accord. Oui, ce qui commence à faire pas mal quand même. C'est...
Pas mal de théorique,
ouais.
Et beaucoup de pratiques, à plein de choses à essayer.
Je sais pas si on a parlé, la formation à l'origine c'était quoi ? C'était pas dans la permaculture, mais c'était quel domaine ? En études ?
Moi, en études, je me suis arrêté sur un bac STMG. Et après, je suis parti à l'armée, qui n'a vraiment rien à voir, du coup.
À l'armée ?
Ouais.
Dans quel secteur ?
Dans le secteur du Grand Est, en tant que maître chien.
D'accord. Ah oui, une belle activité. C'est vrai que c'est étonnant, puisqu'on on a de moins en moins de gens qui parlent de l'armée. Alors moi, je me souviens de mon temps, j'étais du côté de la Braconne au 515e régiment RT. Mais c'est vrai que moi, c'était pas en tant qu'engagé, ça devait être en tant qu'engagé peut-être, non ?
Moi, je m'étais engagé, ouais, sur 2 ans.
D'accord.
Et, ouais. Puis voilà.
Maître chien, donc
c'est ça.
Et le chien, on le garde à la fin, non ?
Moi, j'ai récupéré mon chien de formation,
ouais.
Mais j'avais un autre chien que, du coup, j'ai dû laisser en chenil.
D'accord, donc, oui, c'est pas...
Il a été récupéré par un autre maître.
D'accord. Et donc, voilà. Aujourd'hui, installé du côté de Civaux, donc sur le secteur de... Le petit lieu-dit, c'était déjà...
La carte.
À côté de la cascade.
À côté de la tour au Conium.
La carte, d'où l'intérêt de la ferme à la carte.
D'où la ferme à la carte.
D'accord, voilà. Je comprends mieux. Je dis, tiens, le nom est original, mais je comprends mieux pourquoi aujourd'hui... C'est ça. Un site peut-être internet en route ou...
Création, donc là, je vais essayer de le peaufiner, mais il n'y aura pas de boutique à proprement dit, mais ce sera juste les produits actuels en vente, histoire que les personnes soient informées avant d'arriver sur site.
L'idée dans les prochains mois, c'est quoi ? Là, pour l'instant, c'est de lancer l'affaire bien évidemment. C'est de continuer à construire les bâtiments, à développer un peu tout ça.
C'est ça, ouais. Terminer les dépendances et puis préparer le terrain pour l'année. Ouais. Et puis, on va commencer les semis mi-janvier et puis courant février.
Alors, avec l'eau, ça va pas être évident. C'est vrai que c'est assez compliqué.
C'est que c'est sous serre, donc c'est vrai que là-dessus, la gestion est un peu plus simple.
D'accord.
Et puis, dès qu'on va arriver sur la belle saison, du coup, il y aura les portes ouvertes et puis... Et puis, du coup, il y aura pas mal d'ateliers d'initiation aussi sur un peu tous les domaines de l'autonomie.
Mmh. J'ai vu que la permaculture, donc, c'était se servir de la nature, en fait, tout simplement. Mmh. J'ai été étonné par deux choses, c'est qu'on puisse se servir de carton, notamment pour...
Oui.
Voilà,
carton sans impression dessus.
D'accord.
Faire attention aussi à ça, oui.
Alors, j'ai vu carton et pneus, ça m'a plus étonné, mais des pneus aussi.
Alors, les pneus, oui. Alors, moi, je suis un grand fan de tout ce qui va être des travaux de Michael Reynolds au niveau de la... C'est un Américain qui a acheté plus de 200 hectares au niveau des États-Unis.
D'accord.
Et en fait, il a enterré des pneus pendant 40 ans pour prouver que le pneu se désagrège à l'air libre, mais ne perd pas un seul gramme quand il est enterré. Donc, c'est-à-dire que le pneu est stable, alors que dans l'idée, c'est tout sauf écologique.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Et en fait, le fait de les enterrer, ça les stabilise et ça permet au caoutchouc de jamais se dégrader.
D'accord.
Sauf qu'en fait, ça se remplit de terre. On a une inertie qu'on n'a dans aucun autre produit, aucun autre matériau. Donc, c'est-à-dire qu'on a on peut avoir une maison en terre, juste tenue par les pneus. Du coup, ça va nous faire l'équivalent du coffrage, en fait.
D'accord.
Et on peut monter des maisons entières comme ça. Et lui, du coup, il est à l'initiative du Hership, qui est la maison à l'heure actuelle la plus autonome et la plus résiliente au monde, parce que c'est que du recyclable, mmh. à part les poutres de charpente. Et en fait, à part ça, tout est conçu pour que la maison soit autonome. Donc quand il fait moins 11 dehors, il y a une serre qui fait la zone tampon, donc qui permet à la maison de pas être automatique, enfin de pas être directement au contact de l'air extérieur. Mm-hmm. Donc quand il fait moins 11, on va être sur du 11 degrés dans la serre, et du coup dans la maison avec les puits canadiens qui sont apportés par le mur nord, on va être sur du 20-22 degrés. D'accord. Ce qui des fois peut être trop chaud, donc on a l'obligation presque d'aérer même en hiver.
Ah oui.
Donc c'est performant, et c'est vrai que c'est juste passionnant.
Le puits canadien, c'est quoi ? C'est
le puits canadien, en fait, c'est juste un long tuyau.
Qui passe sous la terre.
Qui passe sous la terre. Ouais. Et vu que la terre est toujours en moyenne à partir de 80 cm, 1 mètre de profondeur, on va être toujours sur une moyenne de 18-20 degrés.
D'accord. Donc ça m'appelle. J'ai restauré moi aussi une maison pour où j'habite à l'appui. Et c'est vrai que quand je l'ai fait, j'avais pensé justement à ce puits canadien. Mmh. Par contre, j'avais énormément de pierres autour et j'ai vite abandonné. Hein, parce ouais. Il fallait quand même quelques mètres de tuyaux pour arriver à le faire.
Faut minimum 8 mètres, je crois.
Oui, voilà. Donc j'ai été découragé par ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a de bonnes choses, de bonnes astuces. La permaculture ramenée aux jardiniers comme moi, par exemple, mmh. ça peut être aussi très très utile. On peut
utiliser. Ah oui, ça peut être puis très utile et très accessible au final, parce que tout ce qui va être aromatique et même les légumineuses. Parce que les légumineuses, c'est pareil, on est quand on parle d'alimentation, on est vraiment axé sur les légumineuses, mais il y a plein d'autres légumes, rien que les plantes sauvages. Mmh. En Europe, on a quand même l'avantage d'avoir plus de 50 000 espèces comestibles dans la nature. Donc rien que quand on sort, on marche sur 2 mètres, il y a déjà une dizaine de plantes comestibles.
Oui, c'est ça, et on a oublié qu'elles existaient, si bien qu'aujourd'hui on va ramasser les champignons, on s'empoisonne avec le prévenu, alors qu'il y en a énormément qui sont comestibles.
C'est ça, c'est un manque de connaissance des personnes, c'est pour ça que du coup c'est assez peu connu malheureusement, mais c'est très très vaste et c'est assez frustrant aussi de savoir qu'on a apporté tout ça et que c'est pas utilisé quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Ouais. Mais bon, on peut espérer que ça se développe un peu plus, les gens reviennent de plus en plus à cette nature, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai quand on regarde par rapport aux différents labels, notamment du bio, on est un peu découragé quand on voit que le bio argentin ou autre, c'est ce que je citais comme exemple, n'a pas les mêmes normes, et aujourd'hui on leur fait un peu moins confiance. Alors c'est vrai qu'on a plus confiance dans la culture locale, notre maraîcher. Je vois par exemple pour les cantines où on demande aujourd'hui dans les cantines d'avoir des produits bio. Si le produit bio vient de Pologne, d'Ukraine ou d'Argentine, il n'aura peut-être pas forcément la même
non,
qualité.
C'est ça, c'est pas du tout les mêmes normes.
Ouais. Qu'un produit local qui sera fait donc à la carte, à la ferme à la carte, par exemple, qui ne sera pas bio, mais sera du local.
Bah c'est ça. Là, pour le coup, moi, je vais pas forcément chercher à avoir de label parce que je veux pas forcément rentrer dans des conditions ou autres. Mais moi, je plante, je laisse pousser, j'arrose. Mm-hmm. S'il y a des problèmes, bah du coup, j'apporte la biodiversité qu'il faut pour que ce soit traité naturellement. Donc du coup, moi, je prends une perte forcément un peu plus élevée que du conventionnel. Sauf qu'en fait, bah, je me permets de pouvoir produire plus parce qu'il y a tellement moins d'entretien derrière qu'au final, au niveau des heures travaillées, je vais diviser par 10 par rapport à quelqu'un dans le conventionnel. Mmh. Donc je travaille beaucoup moins pour produire... autant, voire peut-être plus.
Oui, voilà, oui. Avec un rendu au final de qualité qui est complètement
différent.
C'est ça,
et le produit est totalement naturel. Il n'y a que le soleil qui l'a fait prendre en nutriments et autres, et le sol.
Beaucoup de travail. Pareil, c'est les conditions climatiques aussi qui entrent en ligne de jeu. C'est pas toujours évident, mais...
C'est pas toujours évident, mais l'avantage, c'est que le plus gros problème, ça va être soit l'excès d'eau, soit le manque d'eau. Et l'avantage, c'est que l'excès d'eau, il est traité par, du coup, les variétés anciennes rustiques, ce qui permet de, bah, même s'il pleut énormément, c'est pas dérangeant. Et avec un sol bien drainé, parce que c'est pareil, en fonction de certains légumes, on va avoir besoin de plus d'eau que d'autres. Et du coup, on adapte les zones, on adapte les cultures. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule culture qui fonctionne. Il y a vraiment, moi, je suis actuellement à 32 méthodes différentes qui fonctionnent toutes aussi bien les unes que les autres en fonction du terrain.
D'accord.
Donc, si on a un sol plus sableux, ben on va mettre plus de légumes racines parce qu'ils vont plus avoir de facilité à pousser ou autre. Et en fait, il y a tellement de choses il y a tellement de différences et de situations en fonction des terres qu'on peut pas dire ah bah là il y a que ça qui fonctionne. Il y a toujours bah il y a ça, aussi ça, et puis oh bah en fait il y a 10 autres méthodes qui fonctionnent. Mmh. Mais c'est très avantageux.
Au niveau de l'autonomie, on en parlait, autonomie en électricité, c'est un peu dommage, on a une centrale à côté, c'est dommage de ne pas en profiter. Mais autonomie en eau surtout, c'est vrai qu'on entend beaucoup de discours sur les méga-bassines, oui. Alors qu'ils profitent à quelques agriculteurs, là-dessus le débat est un peu est ouvert. Mais c'est vrai qu'on se dit que l'idée en général est pas si mal, hein, de stocker l'eau l'hiver, surtout en ce moment où on en a, oui. pour en avoir l'été. Est-ce que c'est un peu le même principe ramener...
Alors, le problème du coup des méga-bassines, c'est qu'ils pompent sur les nappes phréatiques, ce qui est du coup pas bon. Même si les nappes phréatiques se remplissent, ça reste, d'un point de vue écologique à proprement parler, ça, c'est pas forcément incroyable et très intelligent. Mais en revanche, moi par exemple, je vais avoir une cuve qui se base sur ma récupération d'eau de toit.
Ouais.
Donc en fait, je vais avoir 120 mètres carrés de récolte d'eau. Et en fait, nous on va faire une cuve de 27 mètres cubes. Et j'en aurai pour toute l'année, parce que moi, il pleut, j'ai regardé, je crois, c'est s'il pleut 20 mm pendant 6 mois, toutes les semaines,
ouais.
Ce qui reste...
Bon, oui, en fait, c'est à peu près dans ce qu'on doit avoir.
Bah, c'est le deux fois moins de ce qu'on a
ouais, en plus. Donc, ouais.
Et en fait, je peux être autonome en eau, que ce soit en eau grise ou en eau potable. Et du coup, en fait, c'est très avantageux. Et du coup, moi, le trop-plein de cette cuve, parce que du coup, on aura trop d'eau à certains moments, va être envoyé directement dans une mare.
D'accord.
Qui du coup, elle va, avec la phytoépuration et autres, va me permettre d'avoir une biodiversité sur le terrain. En plus.
D'accord. Une mare qui est déjà faite ?
Qui est déjà faite, ouais.
Qui a été faite dans un endroit précis, je veux dire, un choix. Je dis ça ouais. par rapport à la mienne, hein, j'en ai une, moi aussi, une mare sur mon terrain. J'ai eu la bonne idée de me dire, bah, après tout, elle doit faire une quarantaine de mètres carrés. Je vais l'agrandir de 20 mètres carrés, et puis je l'ai tellement agrandi qu'en fait, elle fuit aujourd'hui.
Ah.
J'ai plus d'eau dans ma mare, je dois avoir 10 cm aujourd'hui au fond dans la mare, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quoi.
Ouais, bah là, moi, après, j'ai plus opté pour un EPDM. Donc c'est une bâche beaucoup plus résistante. Et comme ça, moi-même, le gibier peut aller boire l'eau, parce que j'ai fait des rampes d'accès et autres.
D'accord.
Et en fait, moi, je vais rajouter énormément de plantes, donc ça va réguler. Mais du coup, cette bâche dessous, on met un feutre pour la protéger des racines et autres. Et dessus, avec la terre, la vase et autres, tout va se stabiliser.
D'accord.
Du coup, il y a très peu de risques de...
Une bâche qu'on trouve dans le secteur ou à titre personnel, je suis en train de m'informer.
Sur Poitiers, je sais qu'il y en a. Après, il y a des sites français qui sont très très bien. Bah moi, j'ai commandé sur un site français.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que sur le secteur, oui, ça se trouve.
D'accord.
Après, tout dépend des budgets.
Ah ben oui, tout à fait. Non, ça peut être une bonne occasion pour remettre un peu d'eau dans ma mare et faire plaisir à mes moutons. On va s'écouter. Tiens, une dernière pause musicale. C'est Stromae qui chante Ta Fête et on revient tout de suite après.
Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire
ta fête.
Ta mère veut te la faire aussi.
Ta fête. Tes oreilles sifflent, à qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie.
Tu aimerais faire
ta fête.
Ta mère veut te la faire aussi.
Ta fête.
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Paulin Pacrot, qui est permaculteur du côté de Civaux. Pour la dernière partie de cette émission, il nous reste 5 minutes. Tiens, on va parler des normes. C'est vrai que les normes, c'est assez compliqué. Il y en a énormément. On fait tout pour assommer un peu l'agriculteur, le paysan français, par rapport peut-être à la concurrence. On ouvre les marchés, mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Beaucoup de normes aussi en permaculture, beaucoup de difficultés par rapport à ça?
Beaucoup sur les... Alors tout ce qui va être légumineuses et fruits, ça reste très accessible. Mmh. Et encore, tout dépend quel type, parce qu'il y a des plantes qui sont pas forcément faciles à vendre, voire invendables. Et après, c'est tout ce qui va être au niveau de la production animalière, donc tout ce qui va être volaille ou autre, tout ce qui va être les normes d'hygiène, ce qui, là, pour le coup, est normal, mais parfois, sur certains trucs, un peu trop. Et par exemple, rien que la vente d'œufs, y a au moins 16 normes. Et c'est pas simple, et c'est vrai que du coup ça peut freiner beaucoup de personnes à se lancer, parce que du coup il y a des statuts, par exemple il y a deux statuts au niveau agricole, c'est qu'on va avoir la micro-BA et l'exploitant. Ouais. Et en fait la micro-BA, c'est on peut produire que 200 ou 300 euros de miel, ou si quelqu'un veut se mettre à vendre du miel, il peut le faire, mais il doit se déclarer en tant que micro-BA.
D'accord.
Et en fait du coup rien que pour ça il y a des normes, et en fait ça pourrait être, n'importe qui pourrait le faire, sauf que y a tellement de normes, de papiers, d'administratifs, que du coup ça peut freiner énormément de personnes. Mais il n'y a pas que le secteur agricole, il y a vraiment
tout le
secteur administratif français est souvent assez complexe, quoi, mais ça reste...
Tout à fait. C'est vrai que la permaculture, par contre, au niveau santé, il y a du bien-être. Je le dis par rapport à nos paysans qui sont énormément touchés par tout ce qui est cancer et autres, par rapport aux produits. Alors, on ne va pas citer de marque, on ne va pas dire que Monsanto et autres sont un peu responsables. Mais c'est vrai que nos paysans sont touchés. On fera une émission, d'ailleurs, le 8 février prochain. Alors, non pas sur le cancer au niveau du monde paysan, mais le cancer et la randonnée, puisque nous rappelons que nous sommes avec Rando 86 pour cette émission. Donc, on parlera randonnée et de maladies, du bien-être de la randonnée par rapport à la maladie. Au niveau justement de tout ce qui est produit, on n'utilise pas de produits chimiques, donc déjà c'est un avantage par rapport à cela pour la permaculture.
Ça. Ouais. Ça permet de pas rajouter de produits nocifs pour notre santé, ou même pour la santé de l'environnement, pour la terre ou autre. Mmh. Et c'est vrai que de par ça, c'est des petits produits à éviter, qui sont pas du tout compliqués à éviter en soi, et ça reste très bon pour la santé, et à long terme ça se ressent, parce que maintenant l'avantage c'est qu'on a énormément d'études qui sont réalisées et qui permettent de prouver de A à Z que manger bien ça aide, que de pas avoir de produits de métaux lourds ou autres dans le sang, ça permet d'éviter les maladies cardiovasculaires ou autres. C'est très très vaste, et c'est vrai que la permaculture, pour ça, le mode de vie de la permaculture apporte beaucoup.
Mmh. Au niveau justement de produits naturels, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, il y a des normes, il y a pour le faire, mais il y a des possibilités d'améliorer les choses par rapport à ça pour les...
Il y a énormément de choses, rien qu'au niveau des plantes médicinales, juste à proprement dites. Déjà, dans la nature, on a tout ce qui va être toutes les plantes diurétiques, donc pour améliorer tout le système digestif, ce qui est déjà assez conséquent dans le corps humain. En fait, on a tout ce qui va être pissenlit, pâquerette, c'est des plantes qui sont très diurétiques. Et rien qu'en tisane, donc à faire sécher et à utiliser en tisane, ça peut être très pratique, ou même en salade. On peut faire énormément de choses. Et oui, en plantes médicinales, il y a largement de quoi faire, même sans forcément s'attaquer directement aux huiles essentielles.
Oui, tout à fait. Des plantes médicinales que vous allez utiliser, non, pas encore, ça viendra peut-être.
Moi, j'en consomme déjà pas mal. Oui, parce que par exemple, j'ai la consoude officinale qui est hyper avantageuse, d'où son nom, la consoude, qui consolide tout ce qui va être système musculaire, osseux et autres. Mmh. Et en fait, elle a des propriétés qui sont utilisées à 0,5% dans les produits qu'on achète en pharmacie.
D'accord.
Oui. Sauf que nous, on l'utilise à 100%. Et donc, pour ça qu'il faut bien doser, parce que des fois... Faut pas en utiliser en excès non plus, quoi.
Ok. Bon, écoutez, il va bientôt être l'heure. On redonne un site internet, peut-être?
Alors, fermealacarte.fr.
Voilà.
Ou sinon, il y a directement sur le groupe Facebook, La Ferme à la Carte.
Écoutez, merci. On va se quitter. On se dit à bientôt. On essaiera de se revoir très prochainement, lorsque l'affaire sera lancée.
C'est ça.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Merci, au revoir.
Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied. Laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.